Bonjour à vous, merci pour cet accueil. Bonjour Lydia Georges, merci beaucoup, vous nous faites un honneur en étant là aujourd'hui. Et bonjour Rachid Benzine, merci de revenir à Jardin d'hiver, c'est toujours bon signe. Imaginez l'émotion de réentendre les voix de personnes chères qui ne sont plus. Par exemple, la voix d'un père que vous auriez toujours connu, taiseux, enfoncé dans son silence comme dans son petit fauteuil. Un père taiseux, mais qui se serait enregistré pendant toute sa vie sur des petites cassettes audio que vous ne découvririez qu'à sa mort. Voilà. Imaginez cette émotion. Ou imaginez la voix d'une mère très âgée, presque centenaire, qui, pour laisser une trace de ses pensées, de ses indignations aussi et de ses émerveillements, aurait tous les jours ou presque tenu une chronique de sa vie en maison de retraite, en activant son petit dictaphone. Ces voix qui survivent à la mort et qui surgissent probablement pour qu'on ne les oublie pas sont le procédé narratif que vous avez tous les deux choisi pour les romans dont on va parler cet après-midi. Deux romans qui ont pour point commun très intime d'être largement inspirés de votre mère Lydia Georges et de votre père Rachid Benzine, même s'il s'agit bien de fiction. Miséricordia a reçu l'an dernier le prix Médicis étranger. Miséricordia est dédié à votre mère, à Lydia Georges. Elle vous avait demandé d'écrire, peut-être pas tout à fait ce livre, mais en tout cas, elle vous avait demandé d'écrire un livre. Vous pourrez nous le dire tout à l'heure. En tout cas, ce livre est dédié à votre mère qui est morte du Covid en avril 2020 dans une maison de retraite au Portugal. Vous avez honoré sa demande à votre façon, en inventant cette narratrice, Maria Alberta Nunes Amado, dite Donna Alberti, on va parler d'elle en employant ce nom, Donna Alberti, qui tient donc le journal de sa vie de personne dépendante, certes, mais toujours lucide, toujours curieuse, toujours orgueilleuse aussi, et déterminée à lutter pour sa dignité. Vous allez voir qu'il est aussi question de dignité dans Les silences des pères, publié aux éditions du Seuil l'an dernier également. Le narrateur Rachid Benzine est un pianiste renommé qui a quitté Trappes depuis une vingtaine d'années, qui avait toujours pensé que le mutisme de son père était un signe de lâcheté ou peut-être même un symptôme de l'immigré marocain qui courbe les chines, qui ne dit rien. Et les fameuses cassettes qu'il va trouver vont lui donner tort. Lydia Georges, les toutes premières pages de ce roman Miséricordia indiquent qu'il est le fruit d'une transcription, alors une transcription tout à fait subjective de 38 heures d'enregistrement réalisées par cette fameuse Donna Alberti pendant sa dernière année de vie entre avril 2019 et avril 2020. Avant de vous entendre sur le livre, je me demandais ce que représente pour vous la voix. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'oralité, dans l'idée de construire tout un livre autour de cette première idée d'une voix qui s'exprime.
Bonjour, merci pour cette invitation et pour être venu. La voix est l'expression la plus proche de l'esprit. Le visage et le corps est quelque chose qui est plus loin de l'âme, de l'esprit, que la voix. La voix et peut-être les pas aussi, le son des pas. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup parce que c'est immatériel et en même temps proche de l'être humain. Alors la voix est absolument importante et pour bâtir ce livre, la voix était très importante et aussi une autre expression, c'est l'expression écrite sur de petits papiers, parce que c'est quelqu'un qui a fait pendant toute la vie son journal intime. Et à la fin de la vie, quand elle n'avait plus la possibilité de soutenir un cahier ou un livre, mais surtout un cahier pour écrire ce qu'elle voulait écrire, elle écrivait sur de petites feuilles, très très petites feuilles, pour pouvoir soutenir avec aussi un petit crayon. Et ça, le mélange de la voix et le mélange de ces mots qui ont été laissé exprès pour poursuivre sa vie. Ça a été, comment dire, la matière prime pour écrire ce livre.
Vous, Rachid Benzine, la voix, votre rapport à la voix, aux archives sonores, peut-être devrait-on dire, plutôt dans le cas de ce livre, comment vous est venue cette idée de ces cassettes audio qui sont plutôt d'ailleurs des messages enregistrés ici en France par cet homme qui s'appelle Ahmed Cherlaoui et envoyé au Maroc à son père?
Tout d'abord parce que c'était un moyen de communication, c'était comme des lettres que l'on envoyait, on est dans les années 70, et il s'agissait d'utiliser ces magnétophones, ces cassettes, pour donner des nouvelles, je dirais, au pays. Et au-delà, ce qui m'intéressait, c'était d'abord la question de la voix comme une présence. Et souvent, lorsqu'on a des parents qui ne sont plus là, la première chose dont on a du mal à se souvenir, c'est le timbre de leur voix. Et même aujourd'hui, avec les vocaux, quand il y a quelqu'un qui n'est plus là, en tout cas, lorsqu'il est mort, on a du mal à effacer, je dirais, ses vocaux, comme si finalement, il venait dire une présence qui est parlante, qui est réchauffante. Et en tout cas, le procédé que j'ai trouvé, ce sont des cassettes que beaucoup d'immigrés utilisaient dans les années 70, pas que les Maghrébins, beaucoup d'Italiens aussi. Et donc, ça leur permettait aussi, à un moment, de pouvoir se raconter, parce que toute vie mérite récit. Et toute la question, c'était de se poser, est-ce que finalement, les enfants s'intéressent à leurs parents? Et globalement, non. Et il faut attendre la mort, il faut attendre l'inéluctable, il faut attendre la limite pour que d'un seul coup, il puisse y avoir un peu un retour sur soi et rendre hommage aux gens qui vous ont aidé à grandir. Et donc, du coup, pour moi, c'était important de raconter ces vies, pas simplement cette vie de Marocain, mais ces vies, je dirais, invisibilisées, inaudibles. C'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que vous devenez d'abord inaudible dans une société ou dans votre famille, et le fait de devenir inaudible, vous devenez invisible aussi pour les vôtres. Et donc il s'agissait pour moi, pour passer à cette visibilité qui est d'abord un lieu de reconnaissance et un lieu de justice, de les rendre audibles. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs registres de discours. Il y a ce père qui parle pendant 40 ans, il y a la voix du narrateur qui nous raconte ce qu'il découvre quand il fait ce voyage hexagonal pour découvrir finalement qui est ce père.
C'est là un point commun très fort entre vos deux livres et un parti pris aussi très fort dans Miséricordia, les silences des pères, c'est que vous faites entendre ces voix, effectivement ces voix de personnes que nos sociétés françaises comme portugaises ne veulent pas voir, ne veulent pas entendre, ne savent pas que faire au quotidien. Les personnes très âgées, dépendantes, et les personnes immigrées. Lydia Georges, Miséricordia, ce n'est pas un livre sur la vieillesse. On va avoir l'occasion, je pense, de le dire à plusieurs reprises. Mais quand même, choisir une narratrice de 92 ans qui n'arrive plus à marcher, qui est totalement dépendante au quotidien des soignants autour d'elle, c'est presque un choix politique, non, en littérature, de choisir une narratrice aussi âgée, une vieille femme.
Bon, choisir quelqu'un qui a 93 ans, ça signifie plonger dans une vie complète. Ça signifie me mettre dans la mémoire de quelqu'un qui a passé un siècle. Et ça me permet de reproduire toute une époque. Tout un déplacement, toute une époque. Ça veut dire, cette femme, elle est une femme pas seulement portugaise, elle est une femme européenne, son âge. Des femmes qui n'avaient que 4 ans de scolarité, ou parfois moins, mais qui ont rêvé d'une vie différente pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ce sont des femmes qui ont construit ma génération, des femmes qui ont eu de l'ambition. Alors, cette ambition passe à travers toute sa vie de cette femme qui refuse de fermer la porte à la vie et qui est capable jusqu'à la fin d'avoir cette mémoire vivante et de se mettre aussi devant le futur avec les portes ouvertes au monde. Et en même temps, je l'ai choisi parce que ça part d'une expérience réelle où j'ai vu que les personnes qui sont mises à côté de par l'âge sont aussi sont soignées par des personnes qui sont mises à côté du point de vue social et du point de vue économique. Alors ce sont deux types de marginaux. Et cette rencontre des marginaux, c'est quelque chose évidemment qui est d'abord ontologique, mais aussi est quelque chose qui est social et qui est politique.
Il y a des dialogues savoureux dans votre livre entre cette Donna Alberti et sa fille, parce qu'elle a une fille qui est écrivaine, évidemment, sa fille vient la voir, et elles ont parfois des discussions sur la littérature. Alors je dis que ces dialogues sont savoureux parce que Donna Alberti a des idées assez précises sur ce que doit être un bon livre, par exemple, et elle peut se désoler notamment de ce que sa fille choisisse toujours de mettre en scène dans ses romans, ce qu'elle appelle des misérables. Tes livres sont une vallée creusée dans un désert, rempli de gens pauvres, dit-elle. Et elle a cette question qui revient souvent à sa fille, mais pourquoi es-tu attirée par ce genre de créature? Pourquoi n'écris-tu pas sur Napoléon ou le Christ ou sur Mère Teresa? Pourquoi êtes-vous, Lydia Georges, attirée par ce genre de créature en littérature? C'est marginaux, comme vous dites.
Ceux qui ne sont pas Napoléon. Évidemment. Bon, c'est parce que je trouve qu'il y a, où sont les voies cachées. Sont les voix cachées, sont vraiment les personnages de la littérature, vraiment, sont des personnages qui sont cachés. Évidemment que quand on me parle des livres des gens, par exemple des gens où les personnages sont importants, comme le personnage de Marguerite Yourcenar, par exemple, c'est complètement différent. Mais c'est vrai qu'il y a un autre type d'écrivain comme moi, les écrivains qui sont attirés par ces voix de l'homme et de la femme commune, de l'homme commun et de la femme commune. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'héritage du roman. Le roman a été créé surtout au XIXe siècle, exactement par ça, pour donner la voix à ceux qui venaient d'apprendre pour la première fois à lire et à écrire. Pour ceux qui travaillaient comme les pauvres, d'ailleurs, la littérature française, comme vous le savez, a même un titre formidable qui est Les Misérables. Les Misérables, comme David Copperfield et d'autres, sont des romans qui ont initié, qui ont ouvert la porte pour tout un type d'écriture qui est notre écriture. Nous sommes descendants d'eux. Je crois qu'en lisant le livre de Rachid, par exemple, et des milliers d'autres, je vois que nous sommes attirés par ceux qui ne peuvent pas dire, qui ne font pas partie de l'histoire, qui font partie du récit. C'est une autre chose. Alors, pour moi, c'est très important ça, et évidemment aussi parce qu'il y a toute une histoire personnelle, et je crois que les grands sentiments des gens qui ne sont pas capables de s'exprimer, qui sont les héritiers d'injustice, qui sont les héritiers d'un monde qu'ils ne dominent pas, et qu'ils sont les esclaves du temps qui passe. Alors, pour moi, c'est très important et c'est même un des grands, ce n'est pas le seul, évidemment, mais c'est un grand rôle de la fiction.
Rachid, vous qui en êtes venu au roman bien après être entré en écriture, hein, on vous connaissait plutôt pour des essais, bon, je vous vois hocher de la tête, et évidemment, c'est l'un des ponts entre vos livres et entre, j'imagine, votre entreprise littéraire, c'est ça aussi, vous, que vous cherchez dans le roman, c'est pour ça que vous en êtes venu à écrire des romans?
En tout cas, à travers le roman, je travaille ce qui est à la marge. Et la marge, sans illusion, dit toujours la vérité d'une société. C'est-à-dire qu'on met à la marge ce qu'on refuse de voir, ce qu'elle nous renvoie. Et notamment lorsque des sociétés sont traversées par des tensions identitaires, des tensions je dirais parfois xénophobe, où une société ne sait plus trop comment, où elle va, elle a besoin de désigner des boucs émissaires. Elle a besoin de désigner des boucs émissaires parce que c'est comme ça. Ça, on le retrouve chez René Girard sur la rivalité mimétique, sur ce besoin de désigner quelque chose et de désigner une partie de sa population qui a grandi avec elle, qui a contribué avec elle. Et c'était intéressant de travailler sur cette question de la mémoire. Lydia vient de parler de la distinction entre le récit et l'histoire, comment ils sont racontés, mais ils ne font pas encore partie de l'histoire. Mais il y a tout le travail de la mémoire, c'est-à-dire que c'est tous ces hommes et ces femmes qui ont traversé le XXe siècle, qu'est-ce que va devenir leur mémoire si elle n'est pas portée, au langage, si elle n'est pas portée au récit, si elle n'est pas portée dans tes textes littéraires, dans des séries de télévision ou le cinéma. C'est comme si on avait finalement qu'ils n'avaient compté pour rien. Vous voyez, ça a été des taiseux dans l'histoire. Et donc, tout le travail, justement, de l'écriture, c'est de faire travailler toutes ces archives de tout ce qui peut globalement exister pour un peu compliquer l'intrigue. C'est-à-dire, moi, je suis toujours... Il y a une très belle phrase de Paul Ricoeur dans Mémoire, Histoire et Oubli. Il dit, ça commence, il dit « Je suis stupéfait par le spectacle de trop plein de mémoire d'un côté et le trop d'oubli de l'autre ». Et l'oubli, ce sont ces oubliés qui n'ont pas voix au chapitre. Et donc toute la question, c'est comment on va retravailler cela pour, compliquer les intrigues du récit que se raconte une société.
Lydia Georges, vous avez passé beaucoup de temps, en tout cas dans le quotidien d'une maison de retraite, en allant rendre visite à votre mère. Je suis à peu près sûre que vous avez beaucoup parlé aussi avec les résidents, comme on appelle... les gens qui vivent dans ces maisons de retraite, le terme est très policé. Est-ce qu'ils vous disaient quelque chose de cet ordre-là, sur l'oubli, sur la question de mémoire? De quoi vous parlaient-ils, ces personnes, hommes et femmes âgées, avec qui vous échangiez lors des visites? Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'ils avaient
à
dire?
Ce qui m'a frappé le plus, c'est que, au contraire de ce que j'imaginais que les émotions s'effaçaient un peu, que les choses s'amoindrissaient un peu, que la vie était plus amoindrie. Et au contraire, ce que j'ai découvert, c'est que les sentiments, les mémoires, peut-être pas la mémoire rationnelle, pas la mémoire du récit enchaîné, mais des traits de mémoire très forts sont vivants, sont présents. Et le désir de vivre, puisqu'on on comprend qu'il y a peu de temps, alors le désir de vivre est tellement fort. Et tout est mélangé, alors le présent et le passé. Et surtout, le rapport que j'ai accompagné, le rapport des personnes âgées avec les jeunes. Et j'ai vu que ceux qui étaient les plus heureux, c'était ceux qui avaient l'idée que les jeunes étaient sa famille qui continuait. Et quand les personnes âgées me parlaient d'eux-mêmes en tant que un nœud dans cette chaîne, et ça m'a frappé beaucoup parce que je ne savais pas que ça se passait comme ça, que ça pourrait être comme ça. Évidemment que la différence entre le procès est très différente entre les jeunes. Et c'est très singulier d'un être humain à l'autre être humain. Mais ce qui m'a frappé beaucoup, c'est ça. C'est le poids de la mémoire. La mémoire comme quelque chose qui est projeté pour le futur. Au contraire, ce que j'imaginais... D'ailleurs, j'ai garder une image, j'ai appris avec eux que c'est comme l'âge, c'est comme une espèce de campanule, on dit une campanola, une cloche,
merci.
Une cloche en verre. Autant qu'on a vécu avant, et cette cloche marche sur notre tête. Aussi tant forte et tant riche a été notre vie passée, le futur est aussi riche. Alors, et on marche sur cette cloche. Le présent, le passé et le présent sont symétriques. Quand il y a eu une grande richesse, la richesse du futur est aussi mis devant la... Je n'ai pas le français suffisant pour expliquer mon idée. Mais c'est vrai que ça m'a touchée beaucoup par la richesse des gens, ce qu'elles veulent apprendre, ce qu'elles ne veulent pas désapprendre, ce qu'elles ne veulent pas oublier, la lutte pour ne pas oublier, la lutte pour continuer à faire les mêmes gestes et pour garder et pour répéter ce que les gens ont vécu. Et je me souviens très bien du rôle des portraits. Les femmes qui disaient « Je ne suis pas seule, j'ai ici le portrait de mon mari ». Son mari était mort 20 ans avant, mais cela était tellement vivant. Et j'ai eu l'idée que le temps humain, ça m'a transformée devant le temps humain. J'ai eu l'idée qu'on mélange, que le temps humain est un prolongement, pas défini par la mort. C'est la mémoire est quelque chose qui passe des êtres de quelques ans pour les autres. Cette mémoire passe et la mort physique, c'est comme si elle n'était pas, une saison. Il y a un prolongement.
Rachid Benzine, votre personnage, donc ce pianiste renommé, Amine, lui, est en quelque sorte dépourvu de mémoire. Il va devoir la construire, il va partir sur les traces de ce père dont il ne sait rien du tout. Et justement, il va parler à des personnes âgées aussi, à des personnes qui ont connu son père et les différentes vies de son père. Ça va être le grand enseignement. Son père a eu une vie et même plusieurs vies. Comment vous avez construit ce personnage qui, j'imagine, un personnage composite, qui passe par différents endroits de France, par différents métiers, qui embrasse différentes trajectoires de ce qu'on peut être les trajectoires de ces immigrés marocains?
Effectivement, j'ai essayé de raconter 40 ans de vie ouvrière dans les différents lieux qui ont constitué l'imaginaire ouvrier français. Et ce sont ce que j'appelle une géographie du silence. Alors effectivement, il va dans le Nord pour rencontrer les anciens amis de son père qui étaient des mineurs. Il va aussi à Besançon, c'est l'usine Lippe pour les anciens dans les années 70. Il va dans le Gard pour découvrir aussi autre chose, un autre silence, qui est plutôt le silence des harkis, c'est-à-dire comment la France construit ses propres silences. Ce que j'essayais de montrer, c'est que les silences à l'intérieur d'une famille sont liés au silence dans une société. Voilà, donc ça m'intéressait de construire un peu ce voyage, parce que c'est un voyage hexagonal, c'est un road trip de la mémoire. Et effectivement, ce narrateur, qui est un grand pianiste international, qui pensait qu'il en avait juste pour 3 jours le temps d'enterrer son père, parce qu'il arrive, il dit « c'est à la fois mon père et un étranger qui est mort ». Et voilà que ces 3 jours vont se transformer en 15 jours. Et à travers les cassettes, justement, il y a à la fois les lieux où son père a travaillé et les dates où il a travaillé. Et donc ça nous permet de raconter les 30 glorieuses, ça nous permet de raconter une histoire de France à travers, je dirais, cette histoire intime et de cette rencontre qui est plutôt une espèce de rencontre post-mortem avec une mémoire fausse, je dirais, du narrateur sur son père et une mémoire qui se reconstruit au fur et à mesure qu'elle est confrontée aux archives. Et les archives, c'est à la fois ces cassettes-là, mais c'est aussi les paroles de ces hommes et femmes qui ont connu son père, parce que c'est aussi une histoire d'amitié, une histoire de solidarité.
Il rencontre notamment Driss, vieux Chibani, et je vous propose de nous lire un extrait de ce que lui dit Driss, de façon assez vive d'ailleurs, sur cette génération.
Et tu sais pourquoi les jeunes, ils ne connaissent plus ces histoires? Parce que les vieux, comme ton père, ils ont voulu que toutes les souffrances, tout ce qu'ils ont subi s'arrête avec eux. Ils voulaient vous en préserver pour que vous soyez libres de réussir votre vie sans rancœur, sans amertume. Parce que même s'ils n'ont vécu qu'une existence très modeste, ils n'aspiraient pas à autre chose pour eux-mêmes. C'est pour vous qu'ils ont tout sacrifié. La réussite de leur exil, ce n'est pas la leur, mais c'est celle de votre génération. Cette mémoire à transmettre, ce n'est pas pour nous, mais pour les autres. Tous les autres, tous ceux qui sont morts au fond, tous ceux qui sont morts de la silicose, tous ceux qui sont morts sur les chantiers, broyés, décapités, pulvérisés, et aussi pour tous ceux qui ont simplement souffert d'avoir quitté leur famille. Tu sais, quand j'ai connu les premiers mineurs, des gens, déjà d'un certain âge, eh bien, ils avaient toujours les mains dans les poches. Ou alors, ils portaient des gants. Moi, je croyais que c'était un genre qu'ils se donnaient, ou une habitude de mineur. Tu veux voir les mains de Boualem ? Elles sont toutes déformées par les vibrations du marteau-piqueur et le bruit qui les a rendus presque tous sourds. Et ces douleurs chroniques du dos, du cou, ces tendinites aux poignets, aux coudes, aux épaules. Moi, le travail m'a bouffé les yeux. Et pourtant, on est de ceux qui ont eu la chance de finir en un seul morceau ou de ne pas mourir jeune. Une minorité. Driss poursuit. Il raconte les primes qu'on leur a sucrées, les humiliations, les pressions, les cassages de gueule organisés par le patronat et exécutés par des militants d'extrême droite, les ratonnades ciblées, les renvois au bled, au Maroc, en Algérie, au Mali. Plus de retraite, plus de sécu, rien. Une main devant, une main derrière, comme on dit. Même celui qui n'a fait que son travail et qui a baissé la tête toute sa vie, il mérite que tu enlèves ta casquette quand il passe devant toi. Il mérite que tu l'aides à traverser la rue, que tu te soucies de lui, que tu lui fasses ses courses, que tu passes le voir juste pour rester 5 minutes avec lui. Parce que tous les exilés sont des cadavres en sursis. Parce qu'ils ont tout abandonné pour vous. Parce que quelque chose est mort en eux le jour où ils ont quitté leur village, leur famille, leurs amis.
Merci Rachid. Vous êtes allé, vous, parler avec ces vieux messieurs pour préparer le livre ? Ça fait partie de votre histoire, peut-être, déjà ?
Je n'ai fait que ça, c'est-à-dire que c'est plutôt dans le domaine de la recherche, puisque moi, je suis universitaire, donc je commence par un travail sur les archives, et ensuite, je vais sur les terrains pour rencontrer des hommes et des femmes qui puissent me raconter ces histoires-là. Donc, j'ai été sur tous ces lieux que j'ai pu décrire, et j'ai entendu ces paroles, je les ai enregistrées, et donc j'ai essayé de construire à travers la figure de ce père un archétype, mais un archétype aussi de la mémoire de la société française, parce que pour moi c'est une question de reconnaissance. Je travaille beaucoup sur le lien entre le récit, la reconnaissance et l'action, et de savoir lorsqu'il y a des dénis de reconnaissance ou lorsqu'il y a des pathologies de reconnaissance, qu'est-ce que ça produit dans la construction de l'individu. Et lorsque vous avez toute une histoire qui n'a pas été suffisamment racontée ni dans les familles, ni dans les manuels scolaires, qu'est-ce que ça donne au niveau des enfants? Et je dis souvent, les silences des pères et la colère des fils. Et en fait, ces silences-là, ce sont des soupirs, comme en musique, comme des soupirs humains qu'on n'a pas su écouter. Donc on n'a pas su écouter parce qu'on était un peu, je dirais, trop pressé, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on avait d'autres préoccupations, et que le rapport à la mort nous ramène automatiquement avec ce rapport au temps qui passe. Et de se dire, comment peut-on rendre compte de ces mémoires-là qui sont en train de disparaître. La mémoire ouvrière, pour certains, c'est quelque chose qui est très 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 loin. Donc du coup, comment continuer à la faire travailler. Mais ce qui m'a intéressé, c'était ce que Ricoeur appelle les promesses inachevées. C'est-à-dire que dans les luttes ouvrières, il y a eu des promesses, l'usine LIP, pendant 3 ans, les ouvriers ont pris, cette usine et ont essayé de faire une espèce d'autogestion. Il y avait une promesse qui était là dans le phénomène, des ouvriers en termes de solidarité sociale ou de classe sociale. Il y avait une promesse qui était que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'ouvriers pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Vous voyez, donc ça permet aussi de retrouver une épaisseur des mémoires, une épaisseur du temps, pour pouvoir puiser, pour revenir et se dire qu'en fait, nous sommes le produit de cette histoire-là et que nous devons être aussi capables, de prendre cette histoire-là et aussi de pouvoir continuer le combat autrement avec les moyens d'aujourd'hui.
Parmi vos personnages, Lydia Georges, il y en a qui sont venus au Portugal sur une promesse. Je pense notamment à Lili Mundé, qui est une jeune soignante brésilienne, très très jeune soignante. Elle est venue là pour une vie meilleure. Elle est venue en se faisant un petit peu arnaquer quand même au passage par des personnes de son pays. Vous le disiez tout à l'heure, Faire la chronique d'une maison de retraite au quotidien, c'est forcément parler de toutes ces personnes qui sont là, qui sont pour une grande partie des exilés. Alors il y a par exemple Nina Mercedes, qui est une portoricaine qui chante tout le temps. Il y a cette fameuse Lili Mundé, très jeune brésilienne. Il y a des Roumaines, des Ukrainiens qui ne parlent pas un mot de portugais. Il y a un jeune Marocain aussi qui s'appelle Ali, qui est homosexuel. Donna Alberti va prendre sa défense. Comment vous avez construit cette communauté de marginaux au sein desquels il y a évidemment les personnes âgées, mais toutes ces personnes étrangères? Et comment Donna Alberti regarde cette communauté autour d'elle?
Cette communauté, pour Donna Alberti, est devenue sa famille. Et le problème pour Donna Alberti, c'est qu'elle se parlait d'amitié avec quelqu'un au matin. Et un jour, et là, le jour après, ou une semaine après, la personne disparaît. Et alors ça, c'est la tâche qui domine, c'est le nuage sur l'hôtel Paradis. C'est qu'on prend d'amitié ceux qui vont partir toujours, qui sont en train de partir. Alors, il y a ce problème là-dedans. Mais évidemment, que si vous me demandez comment j'ai construit cet univers, vraiment, c'est par une vivance, parce que j'ai vécu directement. Ça a été très facile, parce que ces personnes, j'ai transformé un personnage, des personnes vivantes. Par exemple, Lili Mundé est très importante dans ce livre, la jeune brésilienne qui n'avait que 17 ans et qui devrait passer par 21 ou 22 ans pour pouvoir travailler. Et elle a été trompée par tout le monde, elle a été exploitée par tout le monde. Et pourtant, le rapport avec Donna Alberti, c'est un rapport de femme, d'amie. Et Donna Alberti voit sur son visage une espèce de miroir. Miroir, parce que Donna Alberti, dans la vie, a pris des positions envers quand elle était enceinte, exactement égales, ces positions, que cette jeune femme, qui est très très jeune, a pris par elle-même. Et la question de quoi, qu'est-ce qu'une femme, c'est une question qui traverse ce livre. Qu'est-ce qu'une femme? Pourquoi une femme a le sens de la maternité? Pourquoi? Et Donna Alberti pose cette question. Mais pourquoi maintenant que les femmes sont libres, que les femmes sont autonomes, que les femmes rôdent autour du monde, qui ne sont plus des femmes attachées à la terre ou à une maison, pourquoi elles veulent avoir des enfants? Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle n'est pas capable d'exprimer que sauf l'espoir de l'humanité. Elle le dit d'une autre façon. La dernière image est une image très importante, à mon avis, dans ce livre, c'est l'image quand, pendant la pandémie, on ne peut pas visiter personne et Lili Mundé va visiter Donna Alberti dans la rue en regardant la fenêtre. Et la dernière image, c'est Donna Alberti qui voit le ventre rond de vient le vent, la jupe monte et elle voit le vent sur le ventre d'elle-même. Et elle a l'idée que sa vie se prolonge parce qu'elle avait fait exactement le même choix, le choix d'avoir un enfant sans père. Alors, vous me posez la question, comment j'ai fait? Mais évidemment que je pourrais écrire 4 ou 5 livres avec cette expérience. L'humanité était complètement entière. Et c'est un échantillon du monde qui est dans une maison de retraite.
Je continue à creuser les liens entre vos deux romans, cette communauté des très vieux, celle des exilés, ces communautés qui se mêlent. Il y a la question de la résistance, de la dignité, je le disais en introduction. La résistance et la dignité quand vous ne vous appartenez plus complètement Rachid, je vous livre ici ces réflexions qui sont celles de Donna Alberti. Ici où je suis, je n'ai aucun coin à moi, aucun objet qui m'appartient. Même mon corps n'est plus un recoin intime de mon âme comme il l'était. Seules mes pensées m'appartiennent, elles seules ne sont pas surveillées. Et pourtant, il y en a qui tentent de comprendre pourquoi je parle ou je me tais. J'ai trouvé la ressemblance troublante avec certains passages de votre livre et ces conditions de vie épouvantables que vous décrivez. Ce personnage d'Ahmed, notamment quand il travaille dans les mines, dans le nord de la France, lui et ses autres Marocains qui n'ont plus rien qui leur appartient. Qu'est-ce que vous avez à chercher à capter de cette expérience de la dépossession de soi ?
C'est lorsque vous n'êtes plus réduit qu'à un produit du travail. C'est-à-dire que j'essaie de raconter la première fois où on va chercher ces hommes dans le sud marocain par un monsieur qui s'appelle Félix Mora, qui a existé dans les houillères de France et qui, allait dans le sud du Maroc et qui regardait simplement les muscles et la bouche, c'est-à-dire comme on le faisait pour les esclaves. C'est-à-dire on est en 1963. C'est juste après l'indépendance de l'Algérie, et on continue à traiter ces gens comme dans une espèce de déshumanisation. Et donc, du coup, on vient chercher simplement leur rapport, leur force de travail, et ensuite, ils vont dans les mines, c'est-à-dire sous terre, où ils rencontrent des Italiens, des Polonais, où il y a une espèce de solidarité, mais on vient les chercher surtout pour casser une grève, ce qu'on ne leur avait pas dit à l'époque. Oui. Et donc le fait d'être complètement déraciné de sa famille, de tout ce qu'on pourrait appeler les structures anthropologiques qui font que vous existez dans un système, ce système n'existant plus, vous n'êtes plus que, je dirais, complément d'objet direct. Soit complément d'objet direct, soit complément d'objet indirect. Et donc, à partir du moment où vous arrivez, où vous ne maîtrisez pas non plus la langue, parce qu'on ne cherchait pas les gens qui maîtrisaient la langue française, pas de gens cultivés, simplement un rapport de force, donc vous n'avez plus rien. Et même le français, le fait de ne pas pouvoir lire les panneaux, de ne pas pouvoir lire tout simplement, est une très très grande violence. C'est une très très grande violence et on ne s'en rend pas compte. Moi, quand j'avais écrit « Ainsi parlait ma mère », le narrateur qui est un professeur de littérature qui revient s'occuper de sa mère alitée pour l'accompagner en fin de vie, il parle de l'école et il y a cette expression. Il dit « L'école inclut en tant qu'elle exclut les premières victimes en sang les parents ». Et donc automatiquement, il y a quelque chose qui se brise et dans cet exil-là, la seule manière de survivre, c'est d'être en retrait et de vivre de manière silencieuse. Parce que parfois, les mots même sont insuffisants pour décrire cette expérience-là. Et comme je l'avais lu, c'est-à-dire que beaucoup de pères se disaient ben, « cette histoire, elle est derrière nous, ce qui est passé est mort ». Moi, je me rappelle très bien qu'il y avait un Algérien qui m'avait raconté vraiment toutes les expériences. Alors lui, c'était assez grave parce que c'était pendant la guerre d'Algérie. Toute une partie de sa vie avait été tuée par les Français devant lui. Donc il arrive ici, plus tout ce qu'il a pu subir. Et à un moment, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez raconté ça à vos enfants et à vos petits-enfants? Il m'a dit non. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il a eu cette belle phrase, il a dit, je ne voulais pas alourdir le cartable de mes enfants avec des pierres. Et donc il y a quelque chose qui n'a pas été transmis, et dans cette transmission, c'est ce qui donne un peu ces cris, ces colères aujourd'hui. C'est comme si finalement, à travers la littérature, il y avait cette capacité à un moment de pouvoir réparer ce rapport à la mémoire.
Lydia Georges, si on parle de... Vous avez employé le terme de violence, Rachid, peut-être est-il un peu fort, mais il y a quelque chose de ça dans ce que vous décriviez sur une maison de retraite, le fait de priver du jour au lendemain des personnes âgées, de celles et ceux qui deviennent leur nouvelle famille parce que les conditions de travail sont tellement dégradées que le personnel change sans arrêt. Il y a aussi des scènes qui décrivent l'infantilisation des personnes âgées face à laquelle Donna Alberti s'indigne. C'est un livre où il est beaucoup question d'indignation. Cette vieille femme a du caractère, elle a de l'orgueil, elle regarde tout ce qu'il se passe autour d'elle et elle met toute son énergie à maintenir sa dignité, elle qui est dépendante, à réussir à trouver de la joie alors qu'elle n'est plus chez elle, qu'elle a quitté sa maison, qu'elle n'a plus ses fleurs, son jardin, et qu'elle voit presque tous les jours des personnes s'en aller, de nouvelles arriver dans les chambres laissées vides. Je disais en introduction que votre mère vous a commandé ce livre. J'imagine qu'elle n'avait pas en tête que ce soit un livre sur la résistance, sur la vie qui lutte jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elle attendait de vous exactement dans ce livre, Misericordia, avec ce titre très grandiose ?
Vraiment, aujourd'hui encore, je ne sais pas bien pourquoi. Elle m'a demandé plusieurs fois d'écrire sur ce titre. Et c'est seulement la dernière fois que je l'ai rencontrée, que je l'ai vue, j'ai finalement lui demandé pourquoi Misericordia, parce que c'était un titre pour moi absolument improbable partout, parce que c'est un titre religieux, c'est un titre ontologique, métaphysique, très demandant, très exigeant, c'était impossible. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit une chose, je pensais que c'était pour se plaindre de la situation, mais au contraire, elle m'a dit, c'est pour que les gens aient compassion les unes des autres quand on est plus autonome. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue, et évidemment que c'était une demande abstraite, mais 40 jours après, elle est morte. Et j'ai compris que c'était quelque chose qui était, je devrais l'accomplir. Mais j'ai changé, évidemment. J'ai changé le message. Et j'ai changé en rendant hommage à ceux que j'ai vus parier sur la force de la vie jusqu'à la fin. C'est ce qui m'a plus frappée. Alors, ce livre, c'est exactement sur ça. Même les petits morceaux de les poèmes qui sont construits d'après leurs paroles, c'est sa façon de. J'ai changé cette miséricorde comme ayez miséricorde de nous, que ne savons pas quel est notre destin, quel est notre sens de vie, mais nous voulons avoir un sens. Nous voulons avoir un sens. Et tous ces petits poèmes ont été bâtis à partir de ces mots dispers dans les feuilles, je les ai ajoutés précisément pour ça, pour souligner l'idée que la résistance, que la force de vivre et que cette situation de miséricorde est quelque chose d'avoir miséricorde devant notre même nature. D'ailleurs, le titre qui donne le titre, il y a un chapitre qui donne ce titre, et c'est le chapitre qui s'appelle Miséricorde précisément, et c'est le chapitre quand elle est tout le monde le vol des choses, les choses disparaissent. Ses vêtements apparaissent vêtus dans les corps des autres personnes. Elle n'a plus le message de la personne qu'elle aime dans son petit sac qu'elle porte au cou. Et quand elle n'a rien du tout, alors elle décide de ne plus manger. Et il y a un moment où elle cède au corps. Le corps devant la senteur du café au lait est tellement fort qu'elle dit, alors ma volonté est une chose, mon corps est une autre chose, je cède à mon corps parce qu'il est là. Alors elle a même miséricorde d'elle-même, mais elle n'est pas capable de dévoiler le sens de la vie jusqu'à la fin, sauf d'aider à résister les autres. Et pour moi, ça a été... J'ai choisi de toute cette expérience ce sens. Même il y a un autre personnage qui est Donna Rita de Lyon, qui est cette femme qui croit à l'ange gardien. Donna Albertine ne croit pas à l'ange gardien. Mais à la fin de la vie, cette femme, son amie, Donna Rita de Lyon, elle, qui imagine toujours que son fils pilote d'avion est soutenu par un grand ange de la taille de l'avion de l'Air France, et elle croit que son fils n'a jamais eu un désastre à cause de son ange gardien. Et à la fin, quand tout est complètement défait à cette maison de retraite, et elle va mourir dans un arrêt de Lyon, et dit: il n'y a plus d'ange gardien finalement. Et elle, qui ne croit pas, dit: oui, j'ai la preuve, il est sur le toit. Alors, jusqu'à la fin, elle a l'idée que aider, que donner, laisser le sens que chacun vit, que chacun, sur lequel chacun fait son paroi. Je ne sais pas si ce mot existe, faire le paroi. Non, c'est parier sur quelque
pari,
chose.
Pari, oui.
C'est pari, ce n'est pas le paroi, c'est le pari, faire le pari. Excusez-moi, parfois le français est très fragile pour moi. Non, merci. Merci beaucoup. Vraiment, elle veut consoler jusqu'à la fin. Et alors, c'est ça, c'est à cause de... J'ai choisi cette expérience, cette force de vivre et de donner un sens à l'existence.
Et vous avez choisi aussi un extrait à nous lire qui nous donne à voir qui est Donna Alberti et quel est son caractère. Vous voulez bien nous le lire, Lydia ? C'est dans le chapitre Les quatre saisons.
Oui, bien sûr, merci. Oui, je vais le lire. C'est un dialogue entre Donna Alberti et sa fille. Bon, alors, une après-midi d'automne. Comme je suis réveillée, elle était assise sur le lit d'à côté à me regarder. J'aurais dû être surprise, mais non. J'ai trouvé que c'était juste qu'elle me devait ce regard d'amour filial. J'ai fermé les yeux et accepté qu'elle veille sur moi comme je le faisais, comme je l'avais fait sur elle au début de sa vie. Le temps nous avait changé de place, comme il se doit. Désormais, c'était elle qui me regardait dans Noam et moi, qui me laissait voir. C'était bien. La nuit avait été chassée au bout du monde, et à sa place, une grande harmonie soutenait ses murs, et elle était là. C'était bon de savoir qu'elle me suivait de cette façon, que j'ai les yeux ouverts ou fermés. Sans même ouvrir les miens, j'ai demandé. On est en automne, mais la nature passe par quatre saisons, n'est-ce pas ? Elle a répondu, oui. Le cycle de la nature va jusqu'au bout et reprend au début. Il ne s'arrête jamais. Mais les êtres humains, quand l'hiver arrive, n'ont plus aucun autre printemps. Ou si ? Si, bien sûr, a-t-elle dit. Parce que nous, comme on ne peut pas répéter le cycle naturel des saisons, nous inventons une manière de surmonter cette limitation. Pourquoi tu dis ça? Parce que nous remplissons les quatre saisons de notre vie avec les cercles des vies des autres. Chacune de nos vies peut contenir 1000, 1000 ans de vie en ajoutant le récit de la vie des autres qu'on croise sans arrêt. Tu crois? Peut-être parce que je suis assise dans le lit et que c'est l'automne dehors. J'ai pensé qu'elle ne disait rien d'autre qu'une faribole. Mais comme j'avais le temps, elle aussi apparemment, et que le temps passait si lentement, je pouvais réfléchir. Alors j'ai compris qu'elle avait raison. Bien sûr que oui. La vie humaine a quatre saisons, Et parfois, elle s'en tient à deux ou trois, mais elle peut se remplir avec des milliers de saisons de l'année de la vie des autres. Et une soif permanente de participer à ces autres existences aux côtés de la nôtre. Moi-même, je l'avais déjà pensé et je le pratiquais ici, dans cet endroit où je me retrouvais. Moi-même. Autour de moi, il y avait tellement de silence et de confort. Et me revenait en tête tant et tant de vie conservée dans ma pensée que je me suis tue. Puis j'ai regardé le sac vide, puis je l'exigeais et elle obéissait. Et j'ai trouvé le courage de lui dire que c'était très bien qu'elle soit venue et qu'elle soit restée là tout ce temps assise, sans rien dire. Pour tout ça, ma satisfaction était immense. Mais entre-temps, elle avait l'obligation de rentrer chez elle et s'en retourner à sa vie et de ne revenir à l'hôtel Paradis que de nombreuses semaines plus tard. Je lui ai dit ce que je voulais lui dire depuis longtemps. Entre-temps, ne viens pas ici, je l'exige. Et elle sortit et l'harmonie est restée avec moi.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête du père d'Amine, Rachid Benzine, quand il écoute ce fameux concert de Cologne de Keith Jarrett ? Parce que vous voyez ce personnage de père très très taiseux, son fils ne lui connaît qu'une habitude assez surprenante pour un vieil ouvrier marocain, lui semble-t-il, c'est qu'il se plonge pendant des heures dans l'écoute de ce concert, toujours le même concert.
Oui, c'est le fameux concert de Keith Jarrett le 24 ou 25 janvier 1975. Et ce concert a une histoire particulière. Keith Jarrett revient de Lausanne. Il doit jouer à l'Opéra de Cologne vers minuit. On lui présente un piano Bösendorfer qui sonne parfois faux. Il le dit, les aigus sonnent comme un clavecin, donc il ne jouera pas sur les aigus. Et il commence à minuit une improvisation qui va durer 1 h 6 min. Ce concert ne devait jamais exister. C'est le technicien qui l'a enregistré pour les archives. Et voilà que ce concert va devenir l'un des albums le plus vendus dans l'histoire du jazz. Et la place des silences chez Keith Jarrett est quelque chose de très important. Quand on écoute Keith Jarrett, même à la fin, quand il a fini, les silences font partie du morceau. Et la musique, c'est le silence entre deux notes. C'est comme si finalement, je dirais, la musique de Keith Jarrett, qui est d'abord de l'improvisation, alors que le fils est vraiment très très classique, il n'y a pas de notes qui sont écrites, il y a simplement des thématiques, et ensuite on improvise comme avec la vie. Il y a quelque chose qui fait que lorsque ce père écoutait ça au 10e étage de la tour d'une cité à Trappes, le monde était suspendu et seul le langage, je dirais, de la musique arrivait à percer ce mur du silence pour pouvoir parler. Il y a quelque chose de parlant. Et on dit souvent que, mais c'est plutôt dans la tradition arabe, que le silence entre deux êtres qui s'entendent est parole. Voilà, donc comme si finalement la musique installait un silence et que ce silence devenait parlant, à condition de savoir, je dirais, l'écouter. Donc du coup, j'ai essayé de construire ce roman comme une partition de musique où la question des silences devenait une espèce de variation. C'est son propre silence, mais c'est le silence aussi des amis de son père, mais c'est aussi le silence de la société française. Donc du coup, le fils est obligé de composer parce que la question du silence, elle est aussi dans la forme. Parce que je me demandais comment parler des silences sans être bavard. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ellipses spatiales, il y a beaucoup d'ellipses temporelles, et que j'avais besoin de la musique qui est pour moi le silence par excellence. C'est assez intéressant pour écouter une musique, il faut que le silence se fasse. C'est pas facile.
Son fils s'interroge beaucoup sur la nature de ces silences. On parlait de résistance tout à l'heure, en tout cas de lutte pour sa propre vie, pour sa dignité, pour conserver un espace à soi, par exemple, rester un peu propriétaire de soi-même. Est-ce que vous, qui l'avez écrit après tout, voyez les silences de ce père comme son espace de résistance à lui, ou est-ce au contraire, comme son fils semble penser au moins pendant un temps, pendant sa jeunesse, comme le symptôme de sa honte incorporée, de sa condition, en fait, se taire comme il l'a fait toute sa vie?
Disons qu'il y a plusieurs types de silence. Effectivement, il y a le silence de la honte, il y a le silence de la dignité, il y a le silence où on n'a pas envie de transmettre, je dirais, les douleurs. Et au fur et à mesure que j'écrivais ce texte, en tout cas ce roman, je me suis demandé si le silence n'était pas finalement la dernière liberté qui reste aux hommes. Face à une société du bruit, face à une société du commentaire, face à une société où il y a une injonction à prendre parti, vraiment, est-ce que le silence, le retrait, n'est peut-être pas la meilleure, je dirais, position pour l'humanisation, être capable, je dirais, d'écouter? Et je termine ce roman par une citation de Walter Benjamin, qui a beaucoup travaillé sur la question des ruines et de l'histoire, et qui dit « Le silence est une réponse face au chaos du monde ». Et que parfois, les paroles, la saturation de la parole, la saturation des réseaux sociaux déshumanise quelque part. C'est assez intéressant parce que d'habitude, normalement, la parole, c'est ce qui devait lier les êtres, c'est ce qui devait créer du lien, c'est ce qui est vivant. Oui. Parler, c'est pas communiquer. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de pères qui communiquent, les nouveaux pères, hein, je parle. Ils communiquent beaucoup, mais ils parlent très peu en vérité. Donc, et on se dit, mais finalement, il y a des femmes qui disent oui, comme ça, je vois. Et je me demande si finalement la question du silence ne devient pas, je dirais, en elle-même, une question politique. Voilà, donc c'est face à tous les discours qu'on entend sur l'autorité d'un gamin de 34 ans actuellement, je me pose des questions.
Lydia Georges, j'aimerais bien qu'on termine par un petit mot sur quelque chose que vous avez évoqué très rapidement tout à l'heure. C'est le dernier petit trésor de Donna Alberti. Alors, elle a ses souvenirs pour elle, elle a peut-être ses silences aussi, et puis elle a ce petit billet manuscrit qu'elle garde secrètement contre sa poitrine et qu'on lui vole effectivement à un moment. C'est un des piliers de ce roman, je crois, ce petit mot manuscrit. Qu'est-ce que vous voulez bien nous en dire pour finir cette rencontre et sur la place de l'amour dans la vie de cette vieille dame de 93 ans?
Oui, merci. En écoutant Rachida, je suis complètement d'accord avec lui. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est que ce silence, il est positif quand il cache un secret. Quand il a un message dedans, quand il ne signifie pas qu'on est anéanti, mais qu'il y a une délibération, il y a une motivation, il y a quelque chose qui est exprès, n'est-ce pas? Et Misericordia est plein de silence, est plein de non-dits, et même dans ce plan, le plan de l'amour, est rempli de non-dits. Et peut-être le plus éloquent, c'est celui-là, c'est que Donna Alberti est une femme qui aime connaître le monde, qui aime savoir des choses. Et une des choses qu'elle aime, c'est connaître la géographie, c'est connaître les capitales des pays, puisqu'elle n'a pas une préparation conventionnelle. Alors, ses références sont des références pas systématiques. Et elle cherche sur l'atlas les noms, elle les prend par cœur. Et un jour, elle oublie complètement de quel pays Bakou est la capitale. Et ça, pour elle, est une espèce de, est une espèce d'exigence. Savoir quelle est la capitale. Et à travers une amie C'est quelqu'un, un homme qui est venu, qui récemment entre dans la maison. C'était cet homme qui est un sergent charmant, qui lui envoie un message qui dit, Don Alberti, tout ce que vous voulez savoir, j'ai dans mon portable. Et ce message écrit, c'est pour elle une espèce de message d'amour. Elle dit, pour la première fois, je suis infidèle au père de ma fille. Et c'est ça qui, jusqu'à la fin, elle emportera. Et même devant la dernière scène, quand la nuit, la présence de la nuit vient et lui dit, donne-moi, tu n'as plus rien, rien du tout sur ton corps. Alors, donne-moi tes bijoux, donne-moi ton sac avec ce message. Et elle dit, non, oula. Ça, tu voudrais, mais je ne te donne pas. La résistance d'elle jusqu'à la fin, c'est de garder ça. Il n'y a pas de mots. Jamais il n'y a pas de mots. Il y a un jour, je ne sais pas comment on dit, poser les lèvres sur... J'ai peur du mot. Poser les lèvres sur la main. Elle, sergent, le baisement. Alors, il fait un baisement et elle interprète ça. Il ne parle pas, il dit seulement « Madame » et fait le baisement. Et ce sont simplement ces deux mots. Et jusqu'à la fin de la vie, elle se nourrit de ces petits traits. Elle se nourrit. L'amour, et je suis d'accord absolument avec Rachid, même aujourd'hui, l'amour, les rapports d'amour parfois sont détruits à cause du bruit, à cause de la communication qui est une communication... sur le moment, qui n'a pas de délai, qui n'a pas d'attente, qui n'a pas de silence, qui n'a pas de finesse. Tout ça disparaît dans la vie aujourd'hui. Et alors, le silence, c'est vrai. Nous remplir dans nous des silences qui sont... important. Ceux qui ont des secrets là-dedans, ceux qui ont des messages remplis de sens dans la vie. Bon, c'est tout ce que j'essaie, je peux dire.
Merci beaucoup, Lydia Georges et Rachid Benzin. Et merci pour votre écoute silencieuse. À vous, on vous donne rendez-vous dans quelques petites minutes, juste un peu plus haut dans le foyer bas pour une séance de dédicace avec Rachid et Lydia. Vous pourrez leur parler ou juste les regarder et leur dire tout ce que vous avez envie de leur dire par le regard. Voilà.